Rencontre sur FM Plus, André Bourguet au micro, bonjour. Je vous convie à une des rencontres que la librairie Jean Calvin d'Alès organise dans ses murs. Rencontre autour de Samuel Furfari, haut fonctionnaire de la communauté européenne dans le domaine énergie et développement durable. Mais qui a la particularité de jeter un regard religieux sur l'écologie, en dénonçant un écologisme qu'il considère comme antichrétien, pensée certainement inattendue, en tout cas sur notre antenne. Franck Belloir, directeur de la librairie, nous présente son invité, qui enchaînera.
Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence intitulée « Dieu, l'homme et la nature, l'écologie ». Nouvel opium du peuple, point d'interrogation. Le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, disait lors du sommet de Rio en juin 1992, « Il faut ressusciter l'âme de la terre, telle est l'essence de Rio ». En 1992, il a continué de poser le fondement qui avait été déjà posé avant lui, est développé par une série d'individus, de minorités, qui sont devenus de plus importants, notamment au sein de l'ONU. Et Boutros Ghali, ici, reprend cette position, faisant de la Terre, littéralement, une divinité. Et il est étrange de voir que ces positions, qui sont des positions, comme va le développer Samuel Furfari ce soir, des positions environnementales, écologiques, qui reposent sur des données biologiques, scientifiques, mais qui sont aussi contestables. On pourra peut-être en parler, même si ce ne sera pas exactement le propos de ce soir, de toutes ces questions d'énergie, de transformation climatique et ainsi de suite. Il est étrange, en tout cas, de voir que toute cette évolution, eh bien, est aujourd'hui entièrement reprise par les mouvements évangéliques, par les églises chrétiennes, la plupart des églises chrétiennes, les mouvements évangéliques aussi, se posant en défenseurs de la planète et donc adhérant finalement à ce nouvel opium du peuple et même à cette pensée qui se trouve derrière cette pensée environnementale qui littéralement, comme le développera Samuel Furfari ce soir, un nouveau paganisme qui est simplement couvert d'un vernis chrétien lorsque ce sont les églises chrétiennes qui en parlent. Voilà, en tout cas, Samuel Furfari va développer tout ça ce soir. Je suis très heureux de le recevoir. Il est haut fonctionnaire de la Commission européenne. Il est docteur en énergétique. Il va développer surtout ce soir l'aspect religieux et comment, justement, toute cette évolution environnementale, on va bien voir que ce soir, il y a toute une pensée derrière, toute cette évolution environnementale, eh bien, est littéralement opposée à la pensée biblique. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Samuel.
Merci Franck, bonsoir à chacun. Merci d'être là nombreux, ça me fait plaisir. Bon, je fais des conférences dans des plus petites salles et dans des plus grandes salles, mais ça fait plaisir de voir autant de monde. Merci d'être là. C'est un sujet délicat qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne veux choquer personne. Jonathan, si tu peux commencer à... Voilà. Je ne veux choquer personne parce que je sais qu'à chaque conférence, il y a des gens qui n'apprécient pas ce que je dis en disant « Oui, mais on doit quand même protéger la nature, il faut quand même éviter de polluer. » Et donc, c'est pour ça que je vous dis dès le début, nous ne devons pas polluer, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. C'est une évidence. Je le dis dès le début pour que ça soit clair. Mon propos n'est pas de dire oh, « vivons n'importe comment, après tout, ça n'a pas d'importance ». Non, c'est évident. On va voir ça tout le long de la conférence, que nous avons intérêt à protéger l'environnement. Je vous présente mon épouse. C'est pas tellement pour que vous voyez qui est mon épouse, qui est une charmante personne, une charmante chrétienne, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière elle que je voudrais que vous voyez. Vous voyez qu'il y a un grand buisson. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Des haricots, bravo, en effet. Regardez, suivant, Jonathan. Voilà mon épouse qui ramasse nos haricots. Il y a deux mois de différence entre les deux photos, bien entendu. Je vous montre ça pour vous prouver que je suis attentif à la nature. Je suis un agriculteur amateur. Je suis aussi italien, donc un peu macho. Vous voyez, mon épouse est sur l'échelle et moi, je suis assis. Mais comme vous voyez avec ces photos, ben oui, on fait attention à la nature. On a nos légumes, on a du compost, on récolte l'eau, comme vous le voyez avec le bidon sur le côté. Donc je ne suis pas un écolo des villes, je suis un écolo qui vit dans une ville, mais qui essaye de vivre aussi près de la nature. Donc j'espère que vous comprenez que je ne suis pas quelqu'un qui dit, voilà, vivons dans le monde pollué, industriel. Non, j'aime quand même la nature. Le problème, c'est que la nature est devenue un nouvel absolu. Aujourd'hui, la nature est devenue le dieu de notre siècle. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est que l'Européen, ben, il a un nouveau dieu qui s'appelle la nature. L'Européen aujourd'hui est en train de rendre hommage à un nouveau dieu, mais en fait, ce n'est pas un nouveau dieu. On va voir que c'est un vieux dieu. Pour ça aussi, la litanie, pour nous faire adorer ce vieux nouveau dieu, c'est de nous dire que tout va mal. Et sans arrêt, on nous dit tout va mal, il faut changer notre mode de faire. Je vous rappelle que dans l'Ecclésiaste, il y a un verset magnifique, Ecclésiaste 10, 7. Ne dis pas que les jours d'avant étaient meilleurs, car ce n'est pas la sagesse qui te permet de dire cela. Ne regrettons pas le passé, remercions le Seigneur pour ce que nous avons aujourd'hui. Suivant. Et Franck a bien précisé le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est que en tant que croyant de la Bible, ben, on doit faire attention de ne pas tomber dans le piège que la société est en train de nous tendre. Parce que, hélas, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège de la nouvelle religion de l'environnementalisme. Commençons par le début, Genèse 1, Genèse 1, 26 et 28. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons, la mer, les oiseaux, le ciel, les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Vous voyez cette insistance sur l'image. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, ce qu'il n'a pas dit pour tout le reste de la création. Et après avoir insisté sur l'image, vous voyez qu'il arrive à ce verset clé 28, où nous devons dominer la terre en étant les maîtres de la terre. Quand Dieu parle de création, quand il utilise le mot création, en hébreu c'est le mot bara, qui veut dire qu'il y a une création ex nihilo, il n'y a rien. Il parle et il crée. Tandis que pour les hommes, quand ils créent quelque chose, nous ne sommes pas Dieu, nous utilisons la matière première de Dieu et nous la transformons. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que nous avons une intelligence et un esprit créatif. Et il nous donne la nature pour que nous créions, nous aussi, mais à partir, non pas de rien comme lui, mais à partir de la nature qu'il nous a donnée. Il nous a donné la nature, l'intelligence, pour continuer sa création. Et quand Ève met au monde Cain et Abel, elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle n'emploie pas le mot bara, parce que seul Dieu peut créer. Mais nous sommes des artisans à partir de la matière première que Dieu nous donne. Alors pourquoi nous a-t-il créés à son image ? bien entendu, c'est pour l'adorer, le vénérer, toute la partie spirituelle que vous connaissez, bien entendu. Mais c'est aussi parce qu'il nous a donné cette capacité de créer. Il nous a demandé de nous multiplier. Verset 28. Comment voulez-vous vous multiplier sans maîtriser la nature? C'est pas possible. Pour que l'homme puisse se multiplier, il doit gérer, utiliser, travailler la nature. Et c'est ce que l'homme a toujours fait, depuis toujours. Sinon, on n'en serait pas là. Si on devait uniquement cueillir juste pour que les personnes qui sont sur Terre, on pourrait pas vivre. Il faut maîtriser la nature pour pouvoir répondre à cet ordre de multiplier. Et donc, le progrès et la croissance sont des conséquences de l'ordre divin. S'il nous demande de nous multiplier, il faut donner à manger à tout le monde, il faut donc faire de la croissance et du progrès. Le progrès est dans le plan de Dieu. On a un privilège, c'est que Dieu nous donne cette capacité de créer à partir de la nature qu'il nous donne, et il fait de nous des partenaires. Et nous devrons, à mon sens, être joyeux de pouvoir être des partenaires de Dieu et de continuer son œuvre créatrice. Et remercier Dieu pour ce privilège que nous avons. Louer le Seigneur de nous donner cette capacité d'être créatif à partir de la nature. Oui, hélas, le mot est dominé. Vous allez voir que c'est là tout l'enjeu du problème. Psaume 8:6 dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main, tu as tout mis sous ses pieds. » Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme pour qu'il domine la nature. Ça ne me plaît pas à beaucoup, mais les termes utilisés sont clairs. Il y a 23 fois le mot « domination » dans l'Ancien Testament et 40 fois « se rendre maître ». Avec des nuances, l'envahisseur, le roi, les chefs de travaux, pas simplement regarder, mais vraiment dominer, dominer un pays, un territoire. Chaque fois, il y a donc cette volonté d'être le maître de la nature. Et en quelque sorte, Dieu nous demande d'être les lieutenants, les tenants, hein, les intendants de ce que Dieu a créé pour que nous puissions obéir à son ordre de la multiplication et de se rendre maître de la terre. Henri Blocher a précisé que l'autorité qui est conférée à l'homme dans ce mandat de dominer la terre est indissociable de la déontologie royale de l'Ancien Testament. Le roi est le berger de son peuple, mais il est sévèrement condamné s'il se fait un tyran. Et donc, bien entendu, nous devons gérer cette terre, mais pas la détruire. Nous devons la soigner, la diriger, parce que ça fait partie de la nature que Dieu nous donne. Et pour reprendre un terme des syndicats, on ne doit pas casser l'outil. Hein, quand il y a des grèves, les syndicats disent on ne doit pas casser l'outil. Ben oui, on ne va pas casser l'outil, c'est-à-dire Dieu nous donne la nature pour qu'on puisse croître et se multiplier, mais on ne peut pas la détruire, donc là, je rejoins ceux qui disent qu'il faut éviter de détruire la nature et de polluer, bien entendu. C'est donc une question d'équilibre, comme on va le voir. Je vous présente Arne Naas. C'est un Norvégien, fondateur du concept de l'écologie profonde. Vous voyez qu'il aime bien la nature. Écoutez ce qu'il a écrit. La sagesse de Dieu, donc il parle du Dieu des chrétiens, hein, La sagesse de Dieu est ridiculisée parce qu'il a engagé une créature aussi ignorante et si ignoble que l'Homo sapiens pour administrer et garder cette vaste nature à laquelle on comprend si peu. En quelque sorte, Dieu c'est un imbécile parce qu'il a donné à un être encore plus imbécile que lui la gestion de la terre parce qu'il ne comprend rien du tout. Quand vous pensez que toute l'écologie politique que nous avons aujourd'hui en Europe découle de ce monsieur, c'est lui le père de l'écologie profonde. Il s'attaque d'emblée au Dieu des chrétiens en le ridiculisant et en ridiculisant l'homo sapiens. On entend souvent dire « la nature est bonne, l'homme est mauvais ». Ben moi, je ne crois pas que c'est comme ça. La nature a besoin d'être dominée, sinon elle envahit tout. Ça, c'est une photo, je ne sais pas si vous reconnaissez le sarcophage dans le fond. Tchernobyl, bravo monsieur. Tchernobyl, regardez la nature comme elle reprend ses droits partout. Et il n'y a pas qu'à Tchernobyl, même dans mon jardin, dans mon potager. Vous voyez que pour avoir un peu de salade, je dois mettre, parce que j'ai pas beaucoup le temps, de la toile qui empêche les mauvaises herbes de pousser, mais où il n'y a pas de toile sur le côté, vous voyez toutes les mauvaises herbes que j'ai sur le côté. Non, la nature n'est pas bonne. La nature est envahissante. Si vous laissez faire la nature, elle va tout détruire, parce qu'elle prend ses droits. C'est pour ça que l'homme doit dominer la nature. Et il l'a toujours fait depuis Adam. Donc, Dieu a créé à partir du chaos la terre telle que nous la connaissons. Il y a eu ensuite la chute avec le péché de l'homme et les conséquences sur la nature. Mais malgré tout, nous devons gérer cette nature. Et puis on va voir un peu plus loin que Dieu prévoit quand même une restauration totale, y compris pour la nature et pas seulement pour l'homme. Je vous présente Abraham Kuypers. C'était un calviniste hollandais de la fin du 19e siècle. Il avait aussi le grand avantage d'être premier ministre de son pays. C'est rare, n'est-ce pas, un premier ministre qui est un grand théologien. Regardez ce qu'il a écrit. Il n'y a pas un centimètre carré dans tout l'univers dont Christ, le maître souverain de tout, ne dit « cela m'appartient ». Si tout appartient, tous les centimètres carrés de la terre appartiennent à Christ, Dieu gère la terre. Il s'en occupe. Elle n'est pas partie à l'abandon. Ce n'est pas un dieu déiste qui crée et qui puis laisse tomber. On va voir ce qui se passe. Non. Ce que nous vivons aujourd'hui est dans le plan de Dieu, y compris dans la nature. Psaume 65. Car tu prends soin de la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses, Dieu. Ton ruisseau est rempli d'eau, tu fais pousser le froment pour les humains en fertilisant la terre. Tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance, tu aplanis les mottes, tu l'amollis par les pluies et tu bénis ce qu'il germe. Tu as couronné l'année de tes bienfaits, partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Les pâtirages des steppes sont largement arrosés, les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie, les prés couverts de brébis et les vallées drapées de blé. Tout chante et clame sa joie. Dieu gère la terre. Il s'en occupe encore aujourd'hui. La terre n'est pas abandonnée. Pourquoi ? Parce que Dieu donne ce dont nous avons besoin. C'est la grosse différence avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Nous savons que Jéhovah, c'est aussi Jéhovah Jiré, celui qui a pourvu lorsqu'il fallait sacrifier Isaac. Dieu pourvoit aux besoins de l'humanité aujourd'hui. Il ne faut pas paniquer en disant demain il n'y aura plus de pétrole. Parce qu'il n'y aura plus de pétrole, alors Dieu aura prévu autre chose. Parce que Dieu contrôle la terre. Il ne l'a pas abandonnée. Regardez ce que disait ce grand homme de littérature qu'est Victor Hugo. Et puis, quand vous avez laborieusement accompli votre ouvrage de chaque jour, endormez-vous avec sérénité. Dieu veille. Je crois en Dieu, monsieur, et je crois en l'humanité. Dieu met un but au bout de toutes les routes. Il ne s'agit que de marcher. Dieu met un but, il contrôle le monde. Un but. Théard de Chardin, beaucoup plus tard, dit la même chose. Dans son livre « Science et Christ », écoutez ceci. « Notre devoir d'homme est d'agir comme si les limites de notre puissance n'existaient pas. Devenus par l'existence les collaborateurs conscients d'une création qui se poursuit, en nous pour nous mener vraisemblablement à un but, bon lui il parlait d'autre chose, mais c'est un but, bien plus élevé et éloigné que nous ne pensons. Nous devons aider Dieu de toutes nos forces et manipuler la matière comme si notre salut ne dépendait que de notre industrie. » Jusqu'à cette époque-là, tout le monde était convaincu que le progrès était bien, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Autrement, on ne peut pas arriver à cette multiplication et gestion de la terre. Mais alors, pourquoi tout a-t-il changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre Victor Hugo, Théard de Chardin, et nous aujourd'hui, où on me prendrait pour un fou si j'étais dans la rue en train de dire ça? Je pense que c'est une attaque contre Jésus-Christ. Ce qui est en train de se passer, c'est une attaque contre le christianisme et donc contre Jésus-Christ. Il y a une attitude antichrétienne dans le monde qui se développe de manière virulente. Il y a la conséquence aussi de la croissance voulue par Dieu, c'est-à-dire faire de la croissance du progrès, avec une attitude anti-marché. Vous appelez ça comme vous voulez, mais on veut dire arrêter le progrès en quelque sorte, ne plus croire au marché. Et cela donne comme résultat cette nouvelle religion, l'environnementalisme. On va démontrer tout ça, hein. Je vous mets le cadre. Donc on va voir pourquoi on est anti-chrétien, pourquoi on est anti-marché et quelle est cette nouvelle religion. Dans la suite, c'est ce qu'on va voir. Je signale aussi, juste en passant, que cette attitude antichrétienne vient d'abord des États-Unis. C'est une réaction dans les années 60. Les hippies étaient contre la religion des parents. Ce n'était pas tellement le cas en Europe. En Europe, c'est plutôt une revanche de l'échec du communisme. Le communisme n'a plus beaucoup de crédit en Europe. Il y en a encore, mais plus beaucoup. Mais toute cette nostalgie anti-marché ressurgit aujourd'hui à travers le mouvement environnementalisme. Et les deux ont fusionné. Les deux, à l'origine, ce n'était pas comme ça, mais progressivement, les deux ont fusionné. Et cette nouvelle religion, l'environnementalisme, elle a pris pied partout, dans tout l'Occident. Ce n'est pas en Afrique. Hein. Ce n'est pas tellement en Asie non plus. C'est surtout dans les pays chrétiens que l'environnementalisme est en train de prendre pied. Parce que c'est là qu'il faut attaquer, puisqu'il y avait des racines chrétiennes. Alors, je vous disais que, selon eux, tout va mal à cause du christianisme. Ce n'est pas moi qui le dis. Le premier à l'avoir dit, c'est un professeur d'histoire. Il faut se méfier des historiens, Franck. Un professeur d'histoire du Moyen-Âge, Lynn White, qui a écrit dans une revue scientifique, Science, une revue prestigieuse qui existe toujours aujourd'hui, il a écrit en 1967 les racines historiques de notre crise écologique. Et d'emblée, vous voyez, la première ligne de son article, vous voyez, Genèse 1, 28. Première ligne de l'article. Tout le malheur nous vient à cause de Genèse 1, 28. Et qu'est-ce qu'il propose à la fin du premier paragraphe? Une vision chrétienne alternative. Voici ce qu'il dit. Nous continuerons à avoir une crise écologique qui empire jusqu'au moment où nous rejeterons l'axiome chrétien que la nature n'a pas d'autre raison d'exister que de servir l'homme. Tant notre science que notre technologie actuelle sont tellement imbues d'arrogance chrétienne envers la nature qu'aucune solution à notre crise écologique ne peut être attendue d'eux seuls. Je mets 1967 avec des question marks parce que en 1967, il n'y avait pas de crise écologique, vous savez. Le monde était fort différent d'aujourd'hui. Mais lui, déjà, il insiste pour, voyez, partout, crise écologique. Moi, quand j'étais enfant, à l'époque, il n'y avait pas de crise écologique. C'est ces dernières années qu'elle est montée. Mais il fallait tout préparer le terrain. Continuons la dernière phrase. Puisque les racines de nos problèmes sont si largement religieuses, le remède doit également être essentiellement religieux, que nous l'appelions ainsi ou pas. Donc, pour éliminer le problème de la crise énergétique, la crise écologique, ben, il faut changer de religion. 1967. Pierre Rabhi, plus près de nous, en France, c'est un homme qu'on voit souvent à la télévision. La Bible, entre autres, porte la responsabilité très grave d'avoir favorisé et même stimulé l'attitude dominatrice et despotique de l'homme vis-à-vis des autres créatures. Nous sommes des despotes parce que nous dominons la nature. Donc, Dieu nous dit d'être fécond, de multiplier. Pour ça, il faut faire de la croissance. Et d'après ces penseurs de l'écologie profonde, on arrive au désastre écologique. Quelle est la solution qu'ils proposent? Le schéma inverse. Pour sauver la planète, il faut faire de la décroissance, c'est-à-dire contrôler les naissances et évacuer Dieu. C'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui. On veut sauver la planète, faire de la décroissance, arrêter la naissance et évacuer Dieu. Sauver la planète, la Bible ne parle jamais de cela. On disait tout à l'heure avec Franck que l'apôtre Paul s'occupe très peu de ce genre de choses. Il parle juste un peu d'Adam dans Romains 5. Si vous tapez dans Google « Sauver la planète »,« Save the planet », vous retrouvez 223 millions de pages. OK ? 223 millions de pages web qui disent qu'il faut sauver la planète. Si ce n'est pas une intoxication, alors qu'est-ce que c'est ? L'homme veut sauver la planète, il se prend pour Dieu. C'est toujours la même chose. L'homme essaie de se mettre au niveau de Dieu, de connaître comme Dieu. Vous serez comme des dieux, n'est-ce pas ? Disait Satan à Ravadan. Romains 8, 20. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, cela n'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de destruction, la planète sera sauvée. La puissance de destruction qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire, nous le savons bien en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Oui, la planète sera sauvée, restaurée, comme les hommes, mais c'est Christ qui le fera, et pas les 220 millions de pages web.
Radio FM+, réseau associatif régional émettant sur Montpellier et Nîmes. Samuel Furfari, spécialiste d'environnement et développement durable à la communauté européenne, mais aussi lecteur de la Bible, analyse le côté idéologique de l'environnementalisme qu'il estime antichrétien. Il poursuit.
va mal aussi à cause du marché. C'est pas moi qui le dis, hein, Jonathan. Je vous présente le président de la Bolivie. Il était à la conférence COP15. Tout à l'heure, on va parler de la COP21. Ça, la COP15, c'était à Copenhague. Et regardez qu'est-ce qu'il a déclaré. Le changement climatique est provoqué par le capitalisme et donc il faut revenir le plus vite possible au socialisme. Et tous ces présidents qu'il y a sur la photo de droite, c'était tous les copains de l'Amérique latine qui veulent faire la révolution sociale parce que ça fait partie de la lutte contre le christianisme. Vous allez voir que c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici. Je ne vais pas beaucoup parler de climat. Après, dans les questions, si vous voulez, on pourra en parler. Mais ce graphique, simplement, vous indique que les spaghettis que vous voyez là, ce sont les modèles d'ordinateurs qui vous disent que la température est en train d'augmenter. Et les points noirs, c'est la température réelle. Et donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre la réalité et les modèles d'ordinateurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est le point de vue chrétien. Aussi longtemps que la terre subsistera, semail et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. Le mot changement climatique n'existait pas lorsque Noé est sorti de l'arche et que le Seigneur lui a promis qu'il n'y aurait plus de catastrophe. Le mot changement climatique n'existait pas. Mais le Seigneur nous a laissé un message. Ne vous cassez pas la tête. C'est moi qui gère le climat. C'est le Seigneur qui gère le climat. L'environnementalisme sert aussi à rétablir l'égalitarisme que le marché ne sait pas faire. Madame Stewart était une ancienne ministre de l'Environnement canadienne. Elle a dit, peu importe si la science, elle parle du changement climatique, hein, peu importe si la science est complètement bidon, il y a des avantages environnementaux collatéraux. Le changement climatique fournit la plus grande chance pour davantage de justice et d'égalité dans le monde. Donc vous voyez que la question du changement climatique, ce n'est pas simplement pour la planète. C'est aussi pour réintroduire l'égalitarisme dans la société. Václav Klaus était le président de la République tchèque. Il a été réélu 2 fois, donc il a fait 2 mandats de 5 ans. Maintenant, il s'est retiré de la politique. Il a été en prison pendant le communisme. C'est un économiste, un grand économiste, et regardez ce qu'il a déclaré au Sénat américain. Le changement climatique est devenu une religion qui remplace l'idéologie du communisme et menace de limiter les libertés individuelles. Le communisme a été remplacé par la menace de l'environnementalisme ambitieux. Cette idéologie prêche que la terre et la nature sont sous leur protection. Comme les vieux marxistes, ils veulent remplacer l'évolution libre et spontanée de l'humanité par une sorte de planification centrale du monde entier. Une planification. Une planification, ça veut dire qu'on va vous dire aussi ce que vous devez manger. Paul McCartney a été invité au Parlement européen pour essayer de convaincre l'Europe que le lundi, il ne faut plus manger de viande. Les catholiques, dans le temps, ne mangeaient pas de viande le vendredi. Maintenant, les environnementalistes proposent de ne plus manger de viande le lundi parce que si on mange moins de viande, la température de la planète va baisser. Et c'est ce genre d'idées qui percole. À nous, ça nous fait rire. Mais beaucoup de gens tombent dans le panneau. Et on est en train de nous convaincre qu'il faut changer notre alimentation pour sauver la planète. Vous avez vu que je produis beaucoup de légumes. Je ne suis pas un gros fanat de viande, mais je mangerai de la viande si j'en ai envie, et pas pour écouter Paul McCartney. Parce que justement, c'est là, on est en train de nous contrôler la vie sur base de choses qui ne tiennent pas debout dans la science. D'ailleurs, un grand scientifique, le professeur Lindzen, que j'ai la chance de connaître, il était membre du GIEC et il a démissionné. C'est le seul climato-sceptique qui ne fait l'objet d'aucune critique. Vous savez que les climato-sceptiques sont toujours critiqués. Lui pas tellement, c'est une grosse pointure du climat. professeur au MIT. Il est marié avec une Française, une Parisienne. Donc il est souvent à Paris. Si vous voulez l'inviter, il y a peut-être moyen de l'avoir. Il est souvent à Paris. Mais il est dans les nuages, au point de vue science, hein, parce que c'est une sommité. Regardez ce qu'il a écrit. Le contrôle du carbone, c'est-à-dire le changement climatique, est un rêve de bureaucrate. Bon, moi, je suis bureaucrate aussi, donc c'est autant pour moi. Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie. Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie des gens. D'ailleurs, le gouvernement de Tony Blair avait lancé une étude pour que chaque Britannique dispose d'une carte de crédit carbone. Et quand vous faites le plein, ou bien vous achetez un billet d'avion, ou bien vos courses, bien vous donnez la carte carbone aussi, et quand elle est épuisée, bien vous ne pouvez plus acheter. Et puis après un mois, on vous la renouvelle. Puis bon, le projet est tombé à l'eau parce que Tony Blair n'a pas été réélu. Regardez ce qu'il a dit, Lindzen. Vous voyez qu'on touche toujours avec la religion. Hein. Comme une religion, l'environnementalisme se répand avec la haine pour le monde matériel. Et comme la religion, il exige de ses adhérents la dévotion plutôt que la rigueur intellectuelle. Il ne tolère pas les dissidents. Ceux qui remettent en cause le dogme du malheur sont considérés comme des hérétiques, les négationnistes du changement climatique, pour utiliser le vocabulaire vert. Là, il y en a un peu pour nous, hein, parce que nous, on est quand même chrétiens, donc on est un peu dans la religion. Mais vous voyez que pour ces gens-là, quand ils réfléchissent, ils disent, mais ça, c'est plus de la science, c'est de la religion, c'est du dogme. Et donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, l'ère du culte à la terre. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez là ? Ouais, ça ressemble aux dromadaires, mais ce sont des lamas. Des lamas pour faire quoi ? Pour les sacrifier. Sacrifier à qui ? À Pachamama. Le culte païen est devenu officiel en Bolivie. En 2011, dans le droit de la Bolivie, on a introduit le droit légal de Pachamama, la déesse de la fertilité précolombienne. Et ils ont instauré un médiateur pour entendre les plaintes de la nature. Donc la nature peut aller se plaindre chez le médiateur pour dire « Vous êtes en train de me violer, de me détruire. » Et M. Morales, qu'on a vu tout à l'heure, est soutenu par un cabinet fantôme de chamans qui sacrifient des lamas pour que tout aille bien pour M. Morales. Donc vous voyez qu'on là, on est en plein dans le paganisme, hein. On n'aime pas le changement climatique, il faut faire du anticapitalisme, et puis on tombe dans le paganisme. D'ailleurs, ce brave monsieur Morales, c'est écrit en tout petit là-bas, dans le cercle rouge, là à droite, Evo Morales, a proposé aux Nations Unies, qui l'ont adopté à l'unanimité, que le 22 avril devienne le jour de la mère Terre. Dans quelques temps, vos enfants à l'école vont célébrer la mère Terre. Parce qu'à l'école, ils vont certainement faire ça, ils vont introduire « Ah, aujourd'hui, le 22 avril, c'est le jour où on doit fêter la Terre. » Pas la Terre, la mère Terre. Document officiel des Nations Unies. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'à la COP21, on a parlé de la mère Terre ? D'après les pages web, il y a 6 millions 90 000 pages web où on associe COP21 et Mère Terre. Et vous voyez la première, Olewekan, une secte. Oui, à la COP21, on a parlé de la Mère Terre. Oui ou non ? Ben, regardez, le texte officiel qui était encore officiel le 9 décembre. Nothing the need and integrity of terrestrial ecosystem, ocean and mother earth. Donc, le 9, dans le texte, il y avait le mot mère terre. Est-ce qu'on l'a gardé? Ben, ça dépend des langues. En anglais, il y est. En français, on l'a remplacé par terre nourricière. À la COP21, on a mis dans le texte la terre-mère. Notez bien qu'il y a une grosse nuance entre le texte qu'on a vu du 9 et le texte final. Parce que cette fois-ci, on a dit « reconnu par certaines cultures comme la terre nourricière ». Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont écouté pas ça pour nous. Hein. Il y a quand même eu une certaine réaction. Parce qu'entre le draft, le brouillon, le projet et le texte final, il y a quand même une belle différence. C'est-à-dire qu'on laisse aux païens la reconnaissance de la mère nourricière, terre nourricière, mais d'autres gardent quand même de ne pas suivre. J'ai mis certaines avec un E en rouge parce que là, il y a une erreur de traduction. Parce que la... Le certain voudrait dire se référerait aux cultures, mais ce n'est pas du tout le cas du texte en anglais. La notion de justice climatique, c'est pour tout le monde. Et donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que la lutte contre le changement climatique est en fait une lutte pour l'égalité, et pas simplement pour sauver la planète. Alors, est-ce que... la mère terre est dans le texte? Ben oui, en anglais, oui. La mère terre est dans le texte. En français, on a été un peu plus souple avec terre nourricière, mais quand même, c'est dedans. Et figurez-vous que c'est pas tout. Vous savez que l'accord a été négocié à Paris. Maintenant, il faut que les États le signent. Et pour ça, il faut aller à l'ONU, signer sur place le texte. Les États devront se déplacer. Et quand est-ce qu'ils vont ouvrir la signature? Le 22 avril, le jour de la mère Terre. Chers amis, la COP21, c'est de l'idéologie antichrétienne, c'est du paganisme. Pourquoi il y a toute cette quête de spiritualité? Parce que ça fait partie de l'homme. Dieu nous a créés avec ça. J'ai lu cette semaine-ci sur un site belge, on présentait un monsieur, avec, vous voyez le début de sa photo là, en dessous. Voici ce qu'il disait. Il y a 5 ans, après avoir frôlé le burn-out, il s'est mis à exercer des pratiques énergétiques et spirituelles qui ont changé sa vie. Pleine conscience, respiration, méditation, tantrisme. Quelqu'un sait c'est quoi le tantrisme? Je ne sais pas. Keiki, chamanisme. Tenez-vous bien, il travaille aujourd'hui sur de nouveaux modèles économiques durables à partir de spiritualité éco-centrée. C'est ça qui dirige le monde aujourd'hui. Des nouvelles spiritualités. On a évacué le christianisme, Jonathan? Mais Blaise Pascal nous avait prévenu. Le gouffre infini qu'il y a dans le cœur de l'homme ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Nous avons la chance que Dieu remplit notre cœur. Ceux qui n'ont pas la chance doivent le remplir avec autre chose. J'avais ce document que j'ai obtenu à mon travail, depuis des années dans mon bureau. Et lorsque j'ai rédigé ce livre, je m'en suis souvenu, vaguement, et j'ai été le reprendre. Il a été publié en 1991 par une commission gérée par M. Leuc pour la Commission européenne. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, comme des gens, tout était dit. Regardez ce qu'il dit. Il est nécessaire d'inventer une nouvelle métaphore, un nouveau métarécit. On élimine la Bible et on met un nouveau récit. Inventer une nouvelle métaphore qui fasse pénétrer l'homme dans le 21e siècle, on était en 1991, dans la mutation culturelle, changer toutes les idées, c'est-à-dire dans le réenchantement. Cette métaphore devra être holistique, éthique et participative. Figurez-vous que le développement durable et le changement climatique répondent parfaitement à cette dernière phrase. Le développement durable et la lutte contre le changement climatique est holistique. Elle est éthique et ça concerne tout le monde. Tout ça a été préparé. Qu'est-ce que ça veut dire le réenchantement ? Le réenchantement nous ramène à l'histoire de l'Europe. L'Europe était païenne, on va le voir un peu plus loin. Il y a eu l'évangélisation qui a conduit au christianisme, à la christianisation de l'Europe. Ensuite, il y a eu les Lumières, en France, vous le savez très bien, n'est-ce pas, avec l'humanisme qui a apporté beaucoup plus de matérialisme et de la lutte sociale. Et ça a conduit à un désenchantement de la société. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand on a donné tous les biens matériels, il manque quelque chose. L'homme ne vit pas de pain seulement. Et ce désenchantement conduit à l'écologisme et à l'environnementalisme, cette nouvelle métaphore qu'il fallait inventer. Et donc, on fait un réenchantement. On invente de nouveau une spiritualité. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et il s'est inventé de nouveau un nouveau Dieu qui est le paganisme. Nouveau ou renouveau, avec le nouvel âge en particulier. Après la publication de ce livre, j'ai été invité chez France Culture pour un débat. Et il y avait là le philosophe Stéphane Ferré, qui a écrit ce livre, dont le titre n'a rien à voir avec... parce que c'était le moment où il y avait la plateforme pétrolière qui perdait du pétrole dans le golfe du Mexique, qui s'appelait Deep Water. Je n'ai jamais compris le titre. Regardez ce qu'il écrit dans ce livre. Le christianisme est une métaphysique de la mort parce qu'il déprécie la vie terrestre, bien réelle, au profit d'une vie future qui n'existe pas. Évidemment, pour eux, ça n'existe pas. Le progrès est un mythe contredit par les faits. Il ne tient qu'à un autisme métaphysique invétéré de ne pas réaliser que les orang-outans ou les dauphins sont des personnes à part entière. L'humanité n'avancera pas d'un pouce sans un gouvernement mondial. Il faut donc créer un comité d'experts mondial pour défendre la nature. Nous avons besoin d'un Napoléon ou d'un De Gaulle de l'environnement. Vous avez vu qu'il y avait 195 pays, plus l'Union européenne, ça fait 196, qui se sont mis d'accord à la COP21. Un gouvernement mondial. Oui, le paganisme est en train de revenir. Je ne sais pas si vous savez que Saint Boniface était un moine irlandais qui a évangélisé l'Allemagne et il s'est battu avec les frisons parce que les frisons considéraient que les chaînes étaient sacrées. Et lui, il a pris une hache et il a abattu un chêne pour dire, voyez, c'est rien du tout un chêne. Comme dans la Bible, la nature est désacralisée complètement. Et donc l'Allemagne est devenue chrétienne grâce à Saint Boniface qui a dit la nature n'a rien de divin. Mais les Allemands, maintenant, sont très écolos, comme vous le savez, et le fondateur du Parti écologiste a dit, en 1972 a reproché au christianisme sa lutte contre l'animisme gaulois. En quelque sorte, on aurait mieux fait de rester des animistes gaulois plutôt que de devenir des chrétiens. Franck en a parlé tout à l'heure. Je voudrais approcher de la fin avec ce texte de Boutros-Boutros-Ghali. C'est un texte officiel, il est sur le site des Nations Unies, hein, vous allez voir. Tout ce que je vous dis est disponible, hein, il n'y a rien de secret. Vous allez trouver tout sur Internet. Hein. Et Boutros-Boutros-Ghali, qui était le secrétaire général lors de la conférence de Rio, a terminé la conférence avec ces phrases aussi. Après avoir, à Rio, on a adopté un catalogue de mesures qui s'appelait Agenda 21, excusez-moi, trop de mémoire, l'Agenda 21, qui, si on le fait, si on le met en œuvre, vous n'êtes plus libre. Vous allez devoir faire tout ce que cet agenda vous dit. Mais ils ont aussi adopté la Convention sur le changement climatique. COP 21, c'est la 21e fois qu'on se réunit depuis Rio. C'est ça que ça veut dire, COP. COP, c'est Conference of the Parties, la conférence des États qui ont signé la Convention de Rio. Donc, vous voyez, quand Franck disait que ça a commencé là-bas, ben oui. À Rio, on a signé la Convention sur le changement climatique, et depuis lors, chaque année, on se voit, sauf la première année, c'est pour ça qu'on est à la 21 et pas à la 22. Après avoir aimé son prochain comme le lui demandait l'Évangile, vous voyez le passé, hein, l'homme d'après Rio, donc l'homme d'aujourd'hui, doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, pourquoi pas. Tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement, ça c'est pas vrai. Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, on doit aller au-delà du contrat avec Dieu. Si c'est Dieu, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà et au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette terre à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Mais vous rendez compte, on doit signer un contrat éthique et politique avec la nature. Et les gens gobent des choses pareilles. Pour les anciens, donc avant le christianisme, le Nil était un dieu qu'on vénère. De même, le Rhin, source infinie des mythes européens, vous voyez l'Allemagne là, ou la forêt amazonienne, avec la Pachamama, la mère des forêts. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre avait une âme. La retrouver, la ressusciter, tel est l'essence de Rio. Ce que nous devons vivre aujourd'hui, c'est ressusciter l'âme de la terre. Parce que Dieu s'est dépassé. Le paganisme est de retour en Europe. Romains 1, 22 et 20, jusqu'à 25. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Dernièrement, j'ai été très déçu de l'encyclique Laudato Si de pape François, mais bon, fallait s'y attendre aussi quelque part, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. C'était pas le cas des anciens papes, enfin des deux papes précédents. Depuis la vague verte, Jean-Paul II et Benoît XVI s'étaient distancés de cette vague verte. Pas ouvertement, parce que dès qu'un pape dit quelque chose, on tape dessus, figurez-vous, s'il avait osé dire ce que je suis en train de vous dire. Donc, ils se sont tus, mais si vous lisez bien les textes qu'ils avaient prononcés, ben, c'était quand même fort, fort, fort équilibré. François, lui, est tombé dans le panneau et il a publié cette encyclique qui est fortement critiquée par beaucoup de personnes parce qu'il a été, il devient vraiment excessif. Nous sommes à la librairie Jean Calvin. J'aime bien cette phrase dans les institutions. L'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour former des idoles. On est en plein dedans. On est en train de former des nouvelles idoles. Résumé de la situation, le monde judéo-chrétien était régi par Dieu qui donne à l'homme la gestion de la nature. Donc la nature était inférieure à l'homme. Dans la vision humaniste, on a évacué Dieu, mais l'homme est toujours, le mot le dit, humaniste, plus fort que la nature. Et aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau paradigme. C'est Gaïa qui est plus importante que l'homme. Alors, certains vous diront, ben non, c'est pas plus important, c'est de la même importance, parce que l'un va bien avec l'autre. Ben oui, peut-être, c'est de la même importance. Vous pouvez les mettre un à côté de l'autre, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Que devons-nous faire alors, nous, en tant que chrétiens? Eh bien, je crois qu'il faut appliquer 2 Corinthiens 6. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? On n'a rien à faire avec ces gens-là. Moi, j'estime que je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Ce sont des adorateurs de la nature qui n'aiment pas le Dieu des chrétiens. Et on va terminer avec Abraham Kuyper de nouveau. Il l'a dit ça en 1898, dans une conférence aux États-Unis. N'oublions pas que le contraste fondamental a toujours été, et toujours, et sera jusqu'à la fin, le christianisme ou le paganisme, les idoles ou le Dieu vivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Dans le temps est parti, une seule question, nous la prenons.
Vous avez mentionné l'égalitarisme, qui semble aussi quelque chose qui ressemble à l'Évangile. Alors que quand on entend les discours égalitaires, on sent qu'ils sont animés par une motivation de rébellion quelque part contre l'ordre de Dieu. Voilà, j'aimerais vous entendre à ce sujet.
Je crois que nous avons eu en Europe la chance d'avoir la possibilité d'avoir des règles sociales exceptionnelles. Je suis le fils d'un immigré italien qui a quitté la Calabre, le sud de l'Italie, pour aller travailler dans les charbonnages à Charleroi. J'ai grandi dans une cité populaire, je suis né dans une cité populaire. J'étais avec des enfants de ma condition sociale. On n'était pas misérables, mais on n'était pas riches, on était pauvres. Mais le Seigneur a permis, avec les lois sociales belges, que je fasse le maximum d'études que je pouvais faire en Belgique. Il n'y a pas plus haut. Ça, c'est grâce au système social, parce que j'ai eu des bourses d'études. Sinon, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, la nécessité d'offrir des possibilités d'égalité à tout le monde, c'est fantastique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut raboter tout par l'égalitarisme. C'est différent. Donc, que chacun soit traité de manière égale, d'accord, mais l'égalitarisme, c'est autre chose. Et ce que ces gens prétendent, c'est qu'il faut absolument que tout le monde soit égal dans la société. Ça, c'est un rêve. Le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il y aura toujours des pauvres et des riches. Ça n'a rien à voir. Mais j'insiste sur la nécessité qu'il y ait des règles éthiques de bonne gouvernance dans nos pays. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est chrétien.
Sur FM+, antenne de Montpellier, Nous venons d'entendre M. Samuel Furfari, haut fonctionnaire européen dans le domaine du développement durable, et qui a écrit un livre sur sa réserve chrétienne à l'idéologisation néo-païenne du mouvement écologique. Titre « Dieu, l'homme et la nature, l'écologie, nouvel opium du peuple ». M. Furfari était l'invité de la librairie Jean Calvin à Alès. Au revoir, chers auditeurs, et à bientôt sur FM+, dans une prochaine rencontre.
Quelques mots sur le...